fierté d'un homme se relevant, même sous les coups, même sous les doutes, nos routes s'écourent, tous une future tombe et tous un pied dedans. Et ouais, nos vies sont trouvent comme en grande profondeur, chacun veut faire son trou.
Et bonjour, on se retrouve donc sur les ondes de Radio Galère sur 88.4 et sur Internet et sur le DAB pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent cette technique ou ce mode d'audio. Alors, ce n'est pas une maîtrise personnelle puisqu'ils vont avoir simplement un récepteur qui est adapté à DAB. Alors maintenant, on trouve dans le commerce effectivement des petites radios portables où il y a le DAB et la modulation de fréquence classique. Mais tout le monde ne l'a pas et tout le monde n'a pas fait cette dépense supplémentaire. Je vous retrouve en compagnie de Roselyne, que je remercie pour son activité incessante devant son clavier.
Merci beaucoup, mais bon, voilà. Merci à toi pour tout ce que tu nous apprends.
Merci. Et puis, sans Habib, qui a des soucis, enfin, qui est en bonne santé, mais qui a des soucis de famille, et qui voilà, est pris de ce fait-là. Alors, je vais commencer par une petite nouvelle bien triste et bien caricaturale. Il s'attribue tous les ans, et c'est le Parlement européen qui fait ce travail-là, un prix Sakharov. Alors, je rappelle Sakharov, grand scientifique soviétique, scientifique spécialisé dans les questions nucléaires, donc dans l'armement atomique en particulier, et qui était devenu, sur la fin de sa carrière, ce qu'on appelait à l'époque, c'était la fin de l'URSS, un dissident, c'est-à-dire un personnage important, respecté, qui prenait de la distance par rapport à la façon dont le régime fonctionnait dans sa dernière décennie ou dans ses deux dernières décennies, pour faire ça, enfin, depuis Brejnev. En gros. Et donc, le nom de Sakharov a été réutilisé par l'Occident pour montrer qu'il y avait en Union soviétique des gens courageux qui prenaient le risque de dire que le régime n'allait pas bien et qui étaient critiques par rapport à l'Union soviétique. Alors, ça tombait très bien au moment où il le faisait. Et donc, en Occident, il avait été salué avec toute la satisfaction qu'on peut imaginer, puisqu'il y avait quelqu'un d'important qui était intouchable. On ne pouvait pas l'envoyer en Sibérie pour creuser des trous à la pioche. Et donc, on le laissait aller et venir. Et puis, c'était la fin de l'Union soviétique telle qu'on a pu la connaître. Donc, ce prix Sakharov, a été instauré par le Parlement européen et il est attribué tous les ans, à cette saison, par le dit Parlement européen. Et ça s'est donc passé la semaine dernière. Et devinez qui, il y a eu deux prix Sakharov pour les besoins de la cause, qui sont deux Vénézuéliens. Alors, une Vénézuélienne qui s'appelle Madame Machado, qui a donc été interdite de candidature à la présidentielle de début de l'année parce qu'elle avait beaucoup de procès et beaucoup de choses à se reprocher du point de vue des lois vénézuéliennes. Donc, elle n'était pas éligible. Et ils avaient trouvé dans son camp, dans le camp de l'opposition, un brave homme, j'allais dire, un sénateur de 75 ans qui avait accepté de porter le drapeau de Madame Machado et qui s'attendait à être un espèce de deuxième Guaido, c'est-à-dire quelqu'un dont on aurait pu annoncer qu'il était en fait le vrai président, puisque les élections avaient été truquées. Bon, en fait, il était tellement peu sûr de cette opération qu'au bout de quelques jours, il a sauté dans un avion et il s'est réfugié en Espagne. Donc il n'a plus rien réclamé, il n'y a pas eu de deuxième Guaido, il n'y a pas eu de faux président mis en place par les États-Unis. Mais pour le remercier de son activité pour la bonne cause, enfin pour la cause occidentale, il est le deuxième prix Sakharov de l'opération. Voilà, donc ça veut dire que chaque détail compte, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire que ces gens-là étaient des gens respectables. Ils ne l'étaient, alors elle ne l'était pas parce qu'elle était dans la fraude fiscale, dans l'illégalité sur des tas d'activités. Et je vais donner juste une petite appréciation. Les gens qui connaissent un peu la politique française disent qu'à côté, Marine Le Pen est une social-démocrate par rapport à Madame Machado. Voilà, donc je vous laisse vous faire une idée de ce que ça peut être, quelque chose qui serait bien, bien, bien à droite de Marine Le Pen, si vous arrivez à vous imaginer ça. Et bien, c'est ce genre de personnage que le Parlement européen, qui n'en est pas à une horreur près, vient d'honorer du prix Sakharov. Et puis, n'en parlons plus. Ensuite, il s'est passé beaucoup de choses, mais effectivement beaucoup de choses qui ont tourné autour de l'élection présidentielle aux États-Unis. vous vous souvenez que la semaine dernière, quand je vous parlais à l'antenne, les électeurs états-uniens étaient en train de voter. Il n'y a pas eu de problème, c'est-à-dire il n'y a pas eu de contestation sur les résultats, qui est sorti très très vite. Il n'a pas été contesté. Trump est passé assez facilement. Il a une majorité au Sénat. Il aura probablement une majorité à la Chambre des représentants. Donc il est très très libre de tous ses mouvements. Et ça, tout le monde l'a compris, et y compris les démocrates qui n'ont pas protesté, pas monté une opération de faux, de trafic d'influence, d'élections truquées. Mis leur mouchoir par-dessus, on pleurera pas sur Kamala Harris, c'était un choix maladroit, malheureux, c'était pratiquement une défaite à peu près acquise pour ceux qui connaissaient la mécanique états-unienne de près. Il reste que cette campagne présidentielle a été la plus chère de l'histoire des États-Unis, puisque ont été dépensés entre les deux camps 16 milliards de dollars. Le dernier milliard étant dépensé à égalité entre les deux camps pendant la dernière semaine de campagne. Bon, ça n'a pas probablement modifié, puisque finalement l'argent se répartissant presque équitablement des deux côtés. On peut dire que tout ça, c'est de l'argent jeté en l'air pour que le spectacle continue. C'est simplement destiné à faire comprendre que ces deux personnages, eux ou deux autres d'ailleurs, puisque c'est à chaque élection la même chose, ces deux personnages sont totalement dépendants des gens qui ont décidé d'investir. C'est exactement comme le Grand Prix de Paris ou le Grand Prix de l'Arc de Triomphe à Longchamp, c'est-à-dire on parie sur un cheval et on attend ce que ça rapporte, c'est-à-dire que l'écurie va gagner, le cheval se vendra de plus en plus cher s'il a gagné le Grand Prix de l'Arc de Triomphe, etc. Et on trouve toujours des personnages pour aller jouer ce rôle-là, d'autant plus que ce rôle-là peut être rémunérateur, et je pense que ça sera une des données de la présidence, la deuxième présidence de Trump, c'est-à-dire il sait, et tout le monde sait, et tout le monde aux États-Unis, et y compris les puissants aux États-Unis, savent qu'il ne refera pas la même comédie une troisième fois, et donc on va le laisser se remplir les poches, parce que c'est ça qu'il aime et rien d'autre. Après, on va parler politique. Mais ça, il est clair que, puisque je fais allusion à une remarque qu'il avait faite lui-même, donc je ne fais pas des suppositions dans le vague, il avait dit qu'au bout de 2 ans de mandat la première fois, donc vers 2018, il avait dit que ça lui avait coûté plus que ça lui avait rapporté. Donc il parlait pour ce qu'il est, c'est-à-dire un homme d'affaires dans l'immobilier qui dit « là j'ai un placement et puis ça ne m'a pas rapporté grand-chose, j'ai même pour l'instant j'ai perdu ». Bon, donc je pense que beaucoup de gens vont dire « maintenant on va te laisser, je ne sais pas s'il va construire une deuxième tour Trump aux États-Unis ou s'il va en construire une autre en Floride ou quelque part ailleurs, bon, ou aux Bahamas, je ne sais pas, bon, mais il va pouvoir satisfaire ses appétits ». Qui, on le sait, sont grands. Alors le personnage, en tant que tel, en tant que personnage physique, manifestement, il a des appétits. C'est-à-dire que, pour son âge, il a démontré, pendant sa campagne, une vigueur largement au-dessus de la moyenne des personnes de son âge. C'est-à-dire qu'il est poussé par une espèce d'appétit au gain, qui est plus qu'un appétit de pouvoir, c'est l'appétit du gain, la volonté de gagner. Je me mets dans une compétition et je gagne. C'est plus ça qui le motive, parce que son projet politique, bon, on peut le chercher un peu dans différents endroits, mais n'était pas très très clair. Mais il y a une volonté de gagner, et ça a même été relevé par un certain Vladimir Poutine, qui a dit, après avoir observé la vidéo de l'attentat, donc la blessure à l'oreille, il a dit, bon, ce type, il a du courage, hein, parce qu'on se souvient de Trump se levant, le poing dressé. Donc il y a effectivement une dimension physique ou psychologique du personnage qui a joué, alors qu'en face, effectivement, il n'y avait pas du tout la même détermination de cette candidate un peu fabriquée par l'établissement démocrate. Alors, donc ça veut dire que ce qui reste de la politique de Trump reste encore à définir. C'est ça qui est le plus important pour le reste de l'humanité. Qu'il se remplisse les poches, d'autres présidents l'ont fait, peut-être ils l'ont fait moins que lui, peu importe, c'est pas le problème. Et de toute façon, à l'échelle du PIB des États-Unis, c'est à la limite négligeable. Et à l'échelle des profits et des chiffres d'affaires des sociétés qui ont financé sa campagne, c'est négligeable. On lui donnera une commission pour bon travail, pas plus. Mais la Commission, quand il s'agit de centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires d'un gros conglomérat ou d'une grosse boîte de l'industrie militaire, c'est rien du tout de donner un milliard de dollars quand on a, sur le dos du Pentagone, fait des bénéfices à l'échelle de centaines de milliards de dollars. Donc c'est ça. Le paiement, pour vous avez joué un joli rôle, merci pour votre prestation, voilà votre cachet. Je l'interpréterais plus comme ça. Un spectacle donné au monde entier, et puis ce monsieur, il a un cachet parce qu'il a joué un rôle. À la limite, c'est un espèce de Zelensky en plus grand et en plus audacieux. Mais Zelensky, c'est déjà une petite sélection pour un petit rôle dans un petit pays. Ce n'est pas les États-Unis lui-même. Alors, ce qui va être intéressant, c'est qui va faire la politique du gouvernement Donald Trump numéro 2. Alors là, asseyez-vous bien, je vais vous peindre un tableau extraordinairement noir. Je commence. Alors, il y a des noms qui ont déjà été cités, donc ça, c'est acquis. Et puis, il y a des noms qu'on voit venir et qui ne sont pas plus réjouissants que les autres. Alors, le premier, c'est le conseiller à la sécurité nationale. Alors, lui, on sait qui c'est M. Michael Waltz, qui est un élu républicain au Parlement, qui a toujours, pendant les 4 ans du mandat Biden, critiqué Biden pour sa faiblesse et pour sa timidité, qui était contre le retrait des troupes américaines en Afghanistan, qui dit qu'il faut en finir avec la concurrence chinoise, il faut en finir avec la concurrence chinoise. Voilà le conseiller à la sécurité nationale, M. Michael Waltz. Ensuite, ont déjà été désignés Mme Elise Stefanik, qui va être la nouvelle représentante à l'ONU. Et alors, on avait dit, ça serait bien que ce ne soit pas Nikki Haley qui a eu le poste précédemment. C'est exactement du même tonneau. En plus, c'est une néoconservatrice achevée qui a fait plusieurs voyages en Israël, qui a été reçue à la Knesset. C'est une sioniste farouche. Donc, elle fera le même rôle que Nikki Haley faisait pendant le mandat de Biden. Donc là aussi, aucune évolution et même plutôt un durcissement. Enfin, on a affaire à des durs, les deux qui sont là. Ensuite, là, ce n'est pas encore assuré, mais c'est en train de se préparer, le secrétaire d'État, donc le remplacement de M. Blinken, serait un autre élu républicain qui s'appelle Marco Rubio, qui a été dans les primaires républicaines et qui a arrêté les frais. Et donc, lui aussi, c'est un dur à cuire, patenté, bien connu. Ensuite, à la défense, le probable aussi, un monsieur Mike Rogers que vous connaissez mal, mais enfin qui est mal connu sous nos latitudes, mais qui est aussi du même tonneau, la même fibre. Donc en fait, le résumé qu'on peut faire, c'est qu'on a dit que Biden était tenu par les néoconservateurs. Et on disait, peut-être que Trump, parce qu'il a le soutien électoral du neveu Kennedy, de personnes ici et là. En fait, les néoconservateurs ne lui ont pas laissé 8 jours. Ils se sont mis autour de lui, ils l'ont encadré. Il ne va être entouré que de néoconservateurs. Donc la même politique va se poursuivre. Le sommet étant peut-être un certain David Friedman, que vous ne connaissez pas, qui était l'envoyé spécial de Biden pour Israël, qui va probablement être reconduit à son poste et qui est il a dit très clairement qu'il fallait qu'Israël annexe une bonne fois pour toute la Cisjordanie et qu'on n'en parle plus. C'est-à-dire transformer la Cisjordanie en deuxième Gaza. Hein. On les enferme, on met une barrière autour et on est chez nous et on n'en parle plus. Et on ne veut surtout pas d'un État palestinien, évidemment pas. Bon. Voilà le tableau. Hein. Voilà le tableau qui est parfaitement clair. Hein. Il n'y a que des néoconservateurs pour poursuivre en l'aggravant la politique de Biden. Parce que de toute façon, oui, Trump, il connaît pas tous ces sujets. Je rappelle que pour la question israélienne, il avait mis en place quelqu'un qu'il avait sous la main, qui était son gendre, le mari d'une de ses filles, et l'autre étant un sioniste achevé, un pratiquant juif très très marqué, etc., avait fait la politique qui était celle d'Israël, il n'y a pas de problème. Et quand même, il faut se rappeler que sur le cas palestinien et le cas d'Israël, Trump a fait des gestes que les prédécesseurs n'avaient pas jamais osé faire, c'est-à-dire violer ouvertement les positions de l'ONU sur la position de l'ambassade des États-Unis à Israël, puisqu'il a dit on la déménage à Jérusalem, et elle a été déménagée. Bon, ça c'est parfaitement clair. Donc, il n'y a pas de doute, il est capable d'aller bien au-delà de ce qu'un démocrate un peu prudent, un peu ambigu, ferait d'une main sans le dire, ou dirait « j'étais obligé ». Là, non, il faut mettre les pieds dans le plat, il les met. À propos des rapports avec la Chine, qui vont être au cœur du problème, puisqu'on a un de ses futurs bras droits est anti-chinois, je rappelle un événement qui m'avait marqué, qui était un événement de petite ampleur, mais c'était un beau jour dans les débuts du premier mandat où Trump recevait chez lui, donc dans son manoir en Floride, recevait le président chinois lui-même et l'entourage du président chinois. Et rappelez-vous, si vous vous rappelez cette vidéo qui était assez étonnante, c'est-à-dire qu'au moment où tout le monde s'était mis à table, après les salamalecs d'usage, comment allez-vous, cher président, ci et ça et tout, Trump se levait en disant « je viens de bombarder l'aviation syrienne ». Alors qu'il avait le président chinois juste en face de lui, de l'autre côté de la table, les ministres chinois, etc. C'est-à-dire, il disait « vous êtes là, je vous ai reçu poliment, mais je fais ce que je veux ». Alors, heureusement, le bombardement de l'aviation syrienne n'avait pas fait beaucoup de mal, puisqu'en fait, les avions aussi de la chasse chinoise, la chasse syrienne était bien à l'abri, il n'y avait pas eu beaucoup de dégâts. Mais c'était une espèce de camouflet. Je vous ai sous la main, vous êtes mes hôtes, et je vous dis que c'est moi le patron. Et je vous ai là, restez assis. Et à la limite, évidemment, il avait affaire à des Chinois, donc ça aurait pu se terminer avec une autre délégation par un incident diplomatique. Le président de l'autre pays se levant et disant « Monsieur, si c'est comme ça que vous me parlez, vous ne me parlerez plus ». Mais les Chinois savent très très bien avaler leur salive et dire « Bon, toi, on t'a mesuré, on sait qui tu es, on va s'adapter à ta personnalité, à ta façon de faire, mais tu ne nous feras pas reculer comme ça ». Souvenons-nous de ça. Ça c'est du Trump en vrai. Il est capable de faire ça. Souvenons-nous aussi, je fais à nouveau référence à la situation au Moyen-Orient, qu'il avait dit à propos de la position de troupes des États-Unis sur le sol de l'Est de la République arabe syrienne. « Ah ben on m'a dit qu'il y avait une société pétrolière américaine qui avait des installations là, et ben j'envoie l'armée pour la protéger, c'est tout. » Donc il reconnaissait que l'armée américaine allait à sa demande où elle voulait et qu'il s'agissait, dès l'instant où il s'agissait de protéger les intérêts d'une entreprise pétrolière américaine, tout était permis. Les lois internationales, la souveraineté d'un autre État, ça ne comptait pour rien. Je signale ce fait parce que c'est en train de se repréparer pour les jours qui viennent. C'est-à-dire qu'on sait que depuis la semaine dernière, il est arrivé des avions cargo et du personnel militaire américain supplémentaire autour de cette fameuse installation de la société pétrolière Conoco. C'est-à-dire que la guerre est en préparation. Si jamais donc la Syrie décidait de reprendre son territoire, comme elle en a le droit international, eh bien, elle aurait affaire à une armée américaine qui serait là. Et ça permet en plus, vu l'avantage cartographique qui est de situer cette installation militaire sauvage, j'allais dire, sur le territoire syrien, d'avoir un pied sur le territoire irakien juste à côté et de limiter les capacités d'intervention des milices pro-palestiniennes. Donc tout se met bien en place. Donc tous ceux qui ont cru que Trump tenait un discours de paix, son discours de paix, il l'a tenu pour les électeurs, mais les gens qui l'ont mis en place, les gens qui l'ont financé, lui feront tenir le discours qu'ils veulent eux. Et il se prêtera au jeu parce que de toute façon, je vous ai expliqué ce que, à mon sens, sont ses motivations. Et ça a bien commencé dans le sens « je fais ce que je veux et vous allez voir ce que vous allez voir ». Puisque c'est le Washington Post, la semaine dernière, je crois que c'était vendredi, donc trois jours après l'élection, deux jours après l'annonce officielle, qui laisse passer un article en disant que selon des sources bien informées, vous savez, les espèces de fuites, fausses fuites, vraies fuites, le président Trump aurait appelé le président Poutine pour parler de la paix en Ukraine. Alors le Washington Post, je rappelle qu'il y a de ça trois semaines maintenant, la rédaction du Washington Post avait décidé de ne pas prendre position dans la campagne électorale. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient abandonné Kamala Harris à son triste sort, parce qu'il savait qu'elle n'allait pas passer. Et donc, il s'était repositionné de façon neutre, en disant comme ça, comme c'est Trump qui va gagner, il ne pourra pas dire qu'on a fait campagne contre lui. Au moins pas à la fin. Au début, oui, parce que c'est nos habitudes, c'est notre tradition, mais à la fin, on s'est rendu compte, on a été conscient de sa capacité à être président, on lui tire le chapeau, etc. Et tout va bien. Bon. Donc le Washington Post fait passer cette information. Le président Trump a, conformément à ses engagements pris devant les électeurs, appelé le président russe pour parler de la paix en Ukraine. Bon. Et qu'est-ce qui sort deux jours après un communiqué du Kremlin ? Ce n'est pas vrai. Simplement, il n'a appelé personne. Et Poutine a bien précisé en d'autres circonstances que si Trump l'appelait, il décrocherait le téléphone, mais ce n'est pas lui qui appellerait. Donc les affaires étaient parfaitement claires et la position de Poutine était connue, elle avait été prise en public et tout. Donc quand on commence, il n'est même pas à trois jours du début de son mandat officiellement n'est pas commencé, à travailler comme ça, on peut se dire attention, ça va être dur à suivre les affaires américaines parce que si tout est faux d'un bout à l'autre, comment faire de l'information, même si c'est à notre modeste niveau ici sur Radio Galère, ça devient très très compliqué. Alors, la seule chose sur laquelle on peut tabler, c'est qu'effectivement, jusqu'à preuve du contraire, et pour l'instant on n'en a pas, le président de la Russie ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire, il explique ses positions, il explique clairement pourquoi il fait ceci, pourquoi il ne fait pas cela, mais il ne raconte pas qu'il fait des choses qu'il ne fait pas. Bon. Ça reste, alors il faut bien se rendre compte que dans l'espèce de confusion dans laquelle nous entretient le régime des États-Unis et ses alliés en Europe, avoir quelqu'un dont la parole est relativement fiable et qui ne fait pas des choses qui sont exactement contraires à ce qu'il a dit, c'est déjà presque reposant. Et c'est bien à ça qu'il faut qu'on s'habitue, même si on va nous dire « Ah, Poutine, on met les énormes guillemets, le tsar, le ci, le ça ». En fait, regardez, enfin pour ceux, j'explique pourquoi j'arrive à cette conclusion, c'est-à-dire qu'on peut lire sur le site du Kremlin en anglais, puisqu'il y a une version russe, une version anglaise de toutes les prises de position, de tous les rendez-vous, de tous les discours que fait Poutine, on peut tous les lire. Et on peut tous les lire depuis des années. Et donc, c'est des discours en général où il explique bien pourquoi, il a un certain sens pédagogique, j'allais dire, il explique bien ses positions. On s'aperçoit que ce n'est pas un monsieur qui raconte des histoires pour se rendre intéressant. C'est un monsieur qui explique qu'il est chef d'un État, que cet État a des responsabilités mondiales, même si ce n'est pas le plus puissant économiquement, mais c'est un des plus puissants militairement, et qu'à ce titre, il doit tenir une position responsable vis-à-vis de sa population, et même vis-à-vis des pays alentours, et même vis-à-vis de la population mondiale, puisqu'il est le monsieur qui, comme Donald Trump et son entourage, il est le monsieur qui, si jamais il devait riposter à une attaque nucléaire de l'autre côté, serait en capacité de détruire plusieurs centaines de millions de personnes. Et ça, il le sait. Et il dit, je ne suis pas là pour ça, mais ne me poussez pas dans mes retranchements et je ne veux pas que la population russe soit vitrifiée. J'emploie un terme qui est utilisé par d'autres. C'est ça. C'est ça, donc, une longue pratique que j'ai depuis que j'ai acquis des discours et des positions et de l'évolution des positions du président russe me fait dire que quand il parle, il ne faut pas prendre ça pour du bluff pour destiné à la presse et à des effets de manche à la télévision. C'est un propos responsable d'un chef d'État qui essaye d'avoir un comportement rationnel par rapport aux intérêts de son pays et aux intérêts plus globaux de l'humanité entière, ce qui n'est pas tout à fait négligeable. Et donc, nous voilà sur cette question ukrainienne avec, donc assez bizarrement, une annonce que Trump fait en disant, en gros, parce que ce n'est pas lui qui a fait le commentaire, mais on a expliqué ce qu'il avait dit dans son faux coup de téléphone. Et en gros, c'était de dire ce qui est en gros l'espèce de position de repli qu'ont les stratèges états-uniens autour de lui qui voient bien que militairement, l'opération ukrainienne ne va pas aller bien, bien loin et qui sont en train de mettre noir sur blanc, le fait qu'on va laisser un bout de terrain de l'Ukraine à la Russie et puis on va arrêter les frais. Alors le bout de terrain, c'est évidemment la Crimée parce que personne n'espère la récupérer. Et puis récupérer un morceau du Donbass peut-être, mais pas plus et tout. Donc une position très très minimaliste par rapport à l'état de la guerre, mais qui en gros est ce que... Il pensait appâter la direction russe avec ça, en disant « Bon, on a un peu perdu, mais on n'en dit pas plus, donc on vous laisse ça parce que c'est le prix de notre échec militaire, mais c'est tout, vous n'aurez rien d'autre. » Mais comme en fait, ça, ils l'ont dit dans le journal, mais que Poutine n'a pas pris le téléphone, on ne sait pas la réponse. Alors, en fait, on la sait, la réponse, puisque la position de Poutine, il l'a exprimée bien avant que Trump soit élu. Elle est très simple, elle est de dire « Le droit à l'autodétermination, ça existe dans la Charte des Nations Unies. Tous les gens, tous les citoyens ukrainiens d'aujourd'hui ou d'hier qui ont décidé de rallier la Russie et de continuer de parler russe seront les bienvenus dans la Fédération de Russie. Point à la ligne. Les limites, je ne les fixe pas moi. Enfin, je parle le Poutine. Les limites, c'est aux citoyens de dire, nous, on se considère comme appartenant à la Russie et pas à l'Ukraine, surtout l'Ukraine telle qu'on la voit concrètement sur le terrain et avec ces pratiques-là. Sur ces bases-là, alors il y a déjà des cartes qui circulent, alors qui ne sont pas mises en ligne par le Kremlin, mais les gens réfléchissent à cette proposition, savent qui est russophone sur le territoire, savent où sont les lieux des combats, savent où en est l'avancée de l'armée russe sur le terrain, et on voit bien se profiler une espèce de Russie agrandie très sensiblement vers l'ouest, au moins le long de la vallée du Dniepr, et peut-être un peu plus loin. Alors ça engloberait donc Kharkov, ça engloberait bien sûr le Donbass, Zaporoïe, Dnipropetrovsk, jusqu'à Odessa, et à Odessa, on ferait la jonction avec la Moldavie. Vous voyez ce que ça veut dire. Et puis, il resterait autour de Kiev une espèce de principauté entre les mains de ce qui resterait d'un gouvernement ukrainien. Et quant aux provinces de l'Ouest, les populations les plus porteuses d'esprit nazi et d'expérience nazi et de pratiques nazies resteraient en tant que une espèce d'état croupion, sans beaucoup de ressources naturelles et avec beaucoup de méfiance beaucoup de méfiance de ses voisins, voisins polonais, voisins slovaques, voisins bulgares, tout ça, voisins roumains. Voilà ce que pourrait être la carte de la future Ukraine. Donc une Ukraine réduite à très peu de choses, un petit État qui nous ramènerait quelques siècles avant. Alors il faut se rappeler à cette occasion que Ukraine, ça veut dire mot à mot, comme utopie, ça veut dire que c'est nulle part. Ukraine, ça veut dire qui n'a pas de frontières. Et en fait, c'est bien ça, la fabrication de l'Ukraine, ça a été un rassemblement, mise en commun, voulu par Staline, parce que Staline pensait qu'effectivement, en rassemblant la partie russe de la partie donc néo-nazie, qui était plus petite et minoritaire en termes démographiques, et plus petite, plus faible économiquement, il réussirait à faire un ensemble qui tiendrait la route tout ensemble, l'influence des Russes et les richesses du territoire du côté russe étant bien, bien plus importantes. Il avait tenté ce pari, en disant on va les rassembler, et puis comme ça, ça, disons, je fais faire simple, ça noiera les néo-nazis dans la masse. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que précisément, les néo-nazis, les États-Unis les ont entretenus et donc les ont fait grandir, d'où Zelensky et toute la suite. Ça, on verra. Mais la position donc, de Moscou est tout à fait claire. Une fois que vous voudrez négocier, eh bien, on demandera aux populations de s'exprimer. Bon. Qui pourra s'opposer à ce type de procédure? Je ne vois pas trop. On pourra inventer des tas de raisonnements compliqués, mais dire que c'est les populations qui ont choisi sur la base de leur expérience pratique. C'est-à-dire l'expérience pratique pour les gens du Donbass, c'est quand même 2014-2022, bombardement quotidien par l'armée ukrainienne. C'est la façon dont l'armée russe conduit le combat sans jamais viser de population civile. C'est, tout ça fera partie du bilan. Et donc après, les populations jugeront, on verra bien. On n'en est pas tout à fait là, mais c'est bien, on a bien deux lectures totalement différentes du monde, c'est-à-dire d'une part un régime qui de loin envoie des armes, de l'argent à une équipe qu'elle sait totalement corrompue, c'est tout à fait clair, qui à un moment donné commence à se dire, c'est ce qui est en train de se passer, Zelensky est inquiet, le résultat n'est pas tout à fait à l'échelle de ce qu'on imaginait, c'est même pas brillant du tout, mais qui veut surtout pas prendre sérieusement le problème et voir quelle est la position de la population. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les investissements faits par les sociétés à capitaux américains pour racheter des terres ukrainiennes qui sont excellentes, pour racheter des labos pharmaceutiques ou en créer de nouveaux, pour créer des agences de publicité, pour faire des entreprises de tampons. C'est s'emparer de la richesse ukrainienne qui est importante, surtout dans les régions de l'Est. Voilà quelques indications sur ce qui se passe. Donc militairement, les affaires sont très très claires. C'était l'armée russe progresse très très rapidement maintenant. Elle a affaire à une armée ukrainienne qui d'abord, les chiffres circulent maintenant, mais a perdu au moins 700 ou 800 000 hommes depuis le début, ce qui est considérable, qui maintenant est une armée en partie ukrainienne, enfin elle a au moins cette couleur-là dans les uniformes, mais elle est un peu mélangée, donc des mercenaires, de moins en moins d'Ukrainiens qui sont prêts à y entrer, et donc qui fuient par tous les moyens possibles, qui se cachent, qui sortent plus de chez eux depuis des mois et tout, faisant croire à l'entourage qu'ils sont partis, etc. Bon, tout ça fait qu'il n'y a plus beaucoup d'ardeur au combat du côté ukrainien. Au point qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des unités qui sont derrière les unités combattantes, qui sont chargées de dire aux soldats ukrainiens qui auraient envie de fuir parce que l'armée russe est en train d'avancer, si vous reculez encore, on vous tire une balle dans le dos. Bon. Et donc, effectivement, bon an, mal an, les combats continuent dans ces conditions catastrophiques.
Bernard,
oui, je t'écoute.
Je vois qu'en ce moment, Macron est en train d'échanger avec... le chef de l'OTAN suite à l'élection de Trump, et du soi-disant désengagement.
Désengagement. Alors j'allais y revenir, c'est bien que tu me donnes l'occasion d'en parler. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'abord hier. Hier, 11 novembre, Macron a reçu donc à Paris quelqu'un qui était venu pour célébrer l'armistice du 11 novembre et qui était le Premier ministre britannique Starmer. À cette occasion, donc, le dit ministre britannique a été reçu par Macron à l'Élysée. Barnier était présent. Bon, c'est bien poli de la part de Macron, puisque la politique étrangère, c'est Macron qui l'a fait, c'est pas Barnier, mais Barnier était présent. Et donc, il y a une prise de position extrêmement claire qui consistait à dire, même si les États-Unis ne continuent pas, nous continuerons. La France et la Grande-Bretagne, les deux puissances nucléaires. Alors, il disait ça dans le dos de l'Allemagne. Pourquoi il disait dans le dos de l'Allemagne? Parce que d'une part, on n'invite pas effectivement l'Allemagne à commémorer le 11 novembre, évidemment, mais surtout parce qu'en ce moment, l'Allemagne, on ne sait plus qui c'est, dans la mesure où effectivement, le gouvernement Scholz est démissionnaire, avec des accords à l'intérieur de cette coalition qui était déjà fragile, et qu'on sait que les désaccords au sein de cette coalition portent sur la question des rapports avec la Russie. Parce qu'il y a en Allemagne, maintenant, y compris dans les milieux capitalistes, dans les milieux des grandes entreprises, des gens qui disent « mais c'est pas possible de travailler comme ça, de travailler pour faire plaisir aux États-Unis, d'acheter du gaz aux États-Unis à des prix qui sont insupportables, de nous obliger à fermer nos usines parce que le gaz est trop cher, etc. » Alors qu'au fond, si on revenait avant l'explosion des deux gazoducs, on pourrait continuer à avoir la tête haute et à continuer à être la première économie de l'Union européenne. Ce qu'ils sont en train de ne plus être du tout. Bon. Et donc, la tension, elle est là. Et cette tension-là, pour Macron, pour la France et pour l'Angleterre, elle est inacceptable, puisqu'en fait, ils disent, si l'Allemagne bascule, c'est-à-dire qu'elle passe sur une position non pas pro-russe, mais plus neutraliste, ou prendre ses distances par rapport aux États-Unis, on va rester tout seul. Et économiquement, l'Allemagne est plus forte que nous. L'Allemagne serait plus forte si elle redevenait ce qu'elle était il y a encore 4 ans. D'où le coup de pied dans la fourmilière de Macron et de Starmer hier. C'est très, très, très limpide. Et c'est une espèce de réponse, qui correspond à ce qu'a dit le nouveau secrétaire général de l'OTAN, qui donc doit être dans le bureau de l'Élysée au moment où on se parle, mais qui, il y a quelques semaines, a dit une chose très, très importante. A dit, de toute façon, parce qu'il sentait arriver Trump au pouvoir, il entendait, comme on a pu tous l'entendre, des espèces de discours en disant, il faut arrêter les guerres. Alors, j'ai bien aimé, je m'arrête un peu là-dessus quand même. Trump, dans sa campagne, dit, il faut arrêter les guerres. En fait, il faut arrêter d'en faire de nouvelles, c'est ça que ça voulait dire. Mais il ne s'agit pas d'arrêter celles qui sont en cours. Celles qui sont en cours, on les gagne, puisque c'est notre tradition. Bon, donc, ça c'est une remarque au passage. Et donc, l'idée, la position de Rutte, donc ancien Premier ministre néerlandais, était très claire en disant, si les États-Unis ne veulent pas nous aider à combattre pour l'Ukraine contre la Russie, nous le ferons tout seuls. Et il a même dit à un moment donné, quitte à ce qu'on exclue les États-Unis de l'OTAN. Alors, bon, il ne l'aurait pas fait. Mais alors, suivez le raisonnement. Nous le ferons tout seul. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, on mettra les moyens matériels nécessaires pour battre la Russie. je souligne, mettons les moyens nécessaires pour battre la Russie. Les moyens en armes, les moyens en argent, on mettra tout ce qu'il faut. Puisqu'au fond, on a une espèce de délégation des États-Unis qui disent « Nous, on ne le fait pas, mais faites-le vous. D'abord, c'est plus près de chez vous, ça vous concerne et tout. » Et on retombe exactement sur les positions de Trump numéro un. Souvenez-vous, oui, oui, les États-Unis peuvent vous aider à vous défendre, mais payez, payez, faites votre part du travail, faites votre part de la dépense. Alors, quand Trump dit ça, il l'a dit, et il ne s'est pas caché pendant son premier mandat, il le redit maintenant. C'est pour ça que Rutte dit « Ah, si vous ne venez pas, on y va tout seul ». Alors c'est bien gentil de dire ça quand on est M. Rutte, ex-premier ministre néerlandais. On y va tout seul, ça veut dire un budget de guerre en France, un budget de guerre en Grande-Bretagne, des départements, enfin des administrations qui n'ont plus d'argent, des collectivités territoriales qui n'ont plus d'argent, des hôpitaux qui n'ont plus d'argent et tout. C'est ça un budget de guerre. C'est un choix parce qu'il n'y a pas des recettes infinies et énormes. Donc le budget de guerre, il est dans ces réunions-là. Et il est en cours de discussion à l'Assemblée nationale, hein, que ce soit le budget de l'État ou le budget de la Sécurité sociale, de toute façon, c'est le même centre de décision. Voilà ce que ça veut dire. Donc, c'est un choix. Alors, je reviens toujours à l'expression mussolinienne, c'est le beurre ou les canons. Bon, la réponse, elle est claire, il ne l'a pas dit comme ça, et Macron ne le dira pas à la télévision. Il y aura moins de beurre, il y aura plus de canons. Mettez-vous ça dans la tête, c'est bien, bien clair. Hein, puisque, de toute façon, les États-Unis ne veulent pas venir et que nous, il faut qu'on sauve Zelensky. Alors, vous voyez, en plus, proposition politique. Français, payez plus d'impôts pour sauver le clown. C'est pas possible. Alors, on ne le dit pas comme ça. On dit, la Russie va nous envahir, la Russie nous menace avec son arme atomique et tout, pour essayer de faire passer le truc. Mais, de toute façon, cette mécanique infernale est en train de se mettre en place sous nos yeux, avec un Parlement qui ne peut rien faire, puisque l'opposition à cette politique, elle est trop petite, elle n'est pas majoritaire, et que la majorité rassemblée par Macron, qui comprend y compris le Rassemblement national, c'est une majorité de guerre, et donc qui est d'accord avec ce budget. Bon. Tout ça est très très clair, et donc la venue de M. Starmer était très symbolique, puisqu'en fait, c'est les deux meilleurs alliés des États-Unis qui disent « si les États-Unis ne font pas le travail, on va le faire nous, et c'est notre population qui va payer ». Que la population se mette bien ça dans la tête. Alors, évidemment, Barnier ne va pas le dire comme ça, mais c'est exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Et c'est là-dessus, sur un budget comme ça, que le Rassemblement national s'abstiendra, ne fera pas tomber le gouvernement, parce qu'au fond, le Rassemblement national mange de la même cuisine, j'allais dire, hein, puisqu'il est tout à fait d'accord pour ça. Voilà l'articulation des événements. Alors, au milieu, il y a toujours, je reviens sur le président russe, qui, pendant ce temps-là, pendant que toutes ces choses-là se passent, donc ils ne doivent pas le surprendre parce qu'il est quand même très très bien informé, puis maintenant il a, comme on dit, de la bouteille, il a vu comment ça fonctionnait, il a du recul, il a tenu un discours très très intéressant à Valdaï. Alors, le club Valdaï, alors, c'est une espèce de regroupement de pensée où chacun vient librement écouter les autres. Il y a beaucoup de gens d'Occident qui viennent, des intellectuels, des diplomates, etc. Et là, on s'explique. Et donc, Poutine a fait un discours assez intéressant à cet endroit-là. Et il a dit, ben voilà, il a expliqué comment il voyait le monde tel qu'il est aujourd'hui. Il a dit, ma charte de base, mon document de base pour les relations étrangères, c'est la charte de l'ONU. C'est tout à fait clair, il y a tout ce qu'il faut dedans, je m'en suis servi quand j'en ai eu besoin, et c'est ça qu'il faut défendre. Il a dit le reste, l'OTAN, l'OTAN c'est une structure totalement dépassée, bon, qui n'avait pas lieu d'être, hein, on n'en est pas dans la guerre froide et finie, etc. Et il a dit toute une série d'autres choses. Il a dit le travail des BRICS consiste non pas à faire concurrence à l'OTAN, mais à trouver des relations entre tous les pays qui ne sont pas d'accord sur tout, mais à trouver des relations où on ne commence pas par se menacer de se taper, de s'envoyer des bombes sur la figure avant d'avoir compris les intérêts des uns et des autres. On se parle, on discute, on n'est pas tous pareils, il y a des régimes très différents. Et il a insisté sur le fait qu'il y a dans le monde aujourd'hui toute une série d'organisations régionales qui ont l'habitude déjà de ce travail en commun et qui mettent autour de la table des régimes qui sont en eux-mêmes assez différents. Je pense à la Ligue arabe, par exemple. Dans la Ligue arabe, vous avez d'un côté la Syrie et de l'autre côté le roi d'Arabie saoudite. Ce n'est pas tout à fait la même orientation politique, ce n'est pas le même régime du tout. Et donc, malgré tout, ils se mettent autour de la table et ils discutent de problèmes communs. Vous avez l'association de l'Asie du Sud-Est, où les positions du Vietnam et les positions de l'Indonésie ne sont pas les mêmes, mais on se discute parce qu'on a intérêt régional commun. On peut dire évidemment la même chose de l'Union africaine. On a tout ce qu'on veut dans l'Union africaine, mais on se réunit autour de la table à Addis Abeba ou ailleurs, et on essaye de régler les problèmes et d'éviter de s'envahir les uns les autres. Parce qu'en général, les invasions les uns les autres, c'est quelqu'un d'autre qui en profite. Bon. Tout ça fait qu'il y a des espèces de piliers à cette nouvelle architecture internationale. Les premiers piliers existent. Pilier Asie du Sud-Est, pilier Ligue arabe, pilier Union africaine. Alors, en Amérique latine, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y avait des débuts de piliers, mais comme il y a des fous furieux comme le président argentin qui casse tout, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Mais c'est ça la première idée de l'architecture du système futur qui se met en place. Ça, tout ça, bon, alors le discours est assez long, il est alors intégralement aussi, puisque je l'ai lu en anglais sur le site du Kremlin en anglais, mais c'est ça l'orientation, c'est-à-dire bien expliquer qu'il s'agit, le processus des BRICS est un processus qui marche en avant tranquillement, qui met en place donc des structures de discussion, qui traite tous les problèmes sans imposer quoi que ce soit à l'un des membres. Et ça a des effets. Par exemple, le fait que dans les BRICS, il y ait à la fois l'Iran et l'Arabie saoudite, ce qui était inimaginable il y a encore 3 ans, fait que sur la question de la Palestine, ces deux pays qui ont a priori pas la même position. Alors il faut savoir, je reviens aussi à l'ère Trump, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est tout à fait important, c'est que ce qu'on appelait les accords d'Abraham, c'était une idée de Trump. Une idée de Trump consistait à dire « je vais demander aux monarchies arabes, donc aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Bahreïn et à l'Arabie saoudite, de régulariser leurs relations avec Israël et de ne plus s'encombrer avec le problème palestinien. Donc mourrez en paix, même pas en paix palestinien, on s'est arrangé avec Israël et c'est fini, ça en est fini qu'on s'intéresse à vous. » Bon, ça, c'est plus possible aujourd'hui. À telle enseigne que le roi d'Arabie saoudite a réuni ce week-end, je crois, ou la fin de la semaine dernière, une réunion de tout le monde musulman. Alors j'insiste sur le terme, tout le monde musulman, ça veut dire, il n'a pas réuni que les émirs et le roi et le président syrien et le roi de Jordanie. Non, il a réuni aussi le Pakistan, l'Indonésie, tous les pays musulmans. C'est très très différent. Et donc il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, ce qu'il sait, et c'est pas innocent qu'il l'ait fait comme ça, c'est que dans beaucoup de pays musulmans, je pense en particulier au Pakistan et à l'Indonésie, le soutien aux Palestiniens, même s'il n'est pas autre chose que politique, c'est-à-dire une sympathie pour la cause et une volonté que la Palestine soit libérée, ça ne va pas jusqu'à envoyer des armes et des combattants. Mais il y a une position de principe qui se retrouve dans les manifestations de rue qui fait que ces pays-là sont parfaitement clairs sur la question palestinienne, beaucoup plus que l'Arabie saoudite. Et donc, quand le roi d'Arabie saoudite réunit tous ces gens-là, il sait très bien sur quel chemin il est en train de s'installer. C'est-à-dire sur un chemin qui est exactement le contraire de ce que voulait Trump. Alors il faut qu'ils se sentent appuyés, mais il y a aussi l'Iran. C'est-à-dire on a à Riyad, vous avez le ministre des Affaires étrangères iranien, vous avez le ministre des Affaires étrangères pakistanais, le ministre des Affaires étrangères indonésien qui sont là. Le monde musulman, avec son énorme taille, puisqu'on dit que c'est autour d'un milliard de fidèles, dans différentes confessions, etc., se met à discuter et à envisager un avenir de soutien à tous les Palestiniens, quels qu'ils soient. Ça, c'est des innovations tout à fait importantes. Et j'en reviens, et j'en arrive, parce que je regarde l'heure qui passe, j'en arrive à la situation sur le terrain même, en Israël et dans le Liban. Alors, avec la poursuite des horreurs diplomatico-politiques de Netanyahou, qui donc, après s'être séparé de son ministre de la Défense, qui consistait à dire, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais on n'arrive pas, on n'a pas éliminé le Hamas, on n'a pas encore tué, sous-entendu, tous les habitants de Gaza, on en a tué peut-être 100 000 sur 2 millions, il en reste. Hein. Alors il en reste peut-être pas pour très longtemps, parce que quand le régime donc, de Netanyahou décide d'interdire l'accès de l'UNRWA et donc d'interdire l'accès à toute nourriture sur le territoire de Gaza, effectivement, la résistance ne peut pas durer très très longtemps, puisqu'on aura affaire à 1,5 million de morts de faim. De morts de faim. C'est un crime génocidaire s'il en fut. Bon. On en est là de ce côté-là. Ceci étant, la résistance à Gaza est affaiblie de ce fait. Ça devient très très difficile. Et même les combattants, s'ils n'ont pas un peu de quoi manger tous les matins, il y a un moment donné, ils vont fatiguer. Bon. On a des risques, je le dis parce que ça commence à se savoir, il faut le savoir. C'est-à-dire que, apparemment, les Israéliens ont réussi. Les Israéliens ont réussi à négocier avec certains groupes de Palestiniens la possibilité de faire d'eux des intermédiaires pour la distribution de nourriture. Vous sélectionnez un groupe en particulier à Rafah. Dites, c'est à vous que je vais donner la nourriture qui vient pour sauvegarder. Et c'est vous qui la distribuez. Et vous prenez la part que vous voulez dessus. Vous voyez bien ce que je veux dire. Vous êtes des Palestiniens, je vous donne tout le stock de nourriture et de boissons et vous allez le répartir à qui vous plaît et vous garderez la part que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez manger, vous allez boire et les autres vont venir mendier dans votre main. C'est ça la division de la société gazaoui qui est en cours. C'est épouvantable. Roselyne, je suis désolé. Parce que quand on est arrivé à ce niveau d'inhumanité, on peut tout penser, y compris ça. C'est-à-dire trouver un petit groupe qui devient un groupe mafieux, hein, qui est au service des intérêts sionistes et qui va dire aux autres Palestiniens, si vous arrêtez pas, vous mourrez de faim. Alors allez, tendez la main et taisez-vous et arrêtez de vous battre. C'est ça qui est en jeu. Alors, on verra comment ça se passe. Mais donc, l'interdiction de l'UNRWA, c'est ça. Et le travail au sol, c'est ça. Donc, le Hamas est affaibli, c'est clair. En plus, son leader historique a été assassiné. On ne sait pas encore très clairement qui prend la place. Et si celui qui prend la place, c'est un monsieur qui est là justement pour distribuer la nourriture avec la bénédiction israélienne, effectivement, le Hamas se trouvait très affaibli. C'est pas joué, mais c'est en cours. Il faut bien comprendre que c'est en cours.
Mais ça veut dire que l'UNRWA n'est plus sur place ?
Non, ça y est, elle est interdite d'accès. Alors qu'ils
avaient les ont tous renvoyés chez eux.
Oui, tout à fait. Et ils ne peuvent pas rentrer ni sortir. Ouais, ils ont tous. Puisqu'ils ne reconnaissent plus l'UNRWA. Donc, effectivement, alors, il y a une dernière tentative. Le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, le commissaire chargé de la Palestine sont sur place pour essayer de rectifier le tir. Mais ça supposerait encore que l'ONU tape sur la table. Est-ce que l'ONU va taper sur la table ? On ne sait pas. On ne sait pas. Jusqu'à présent, sur le dossier palestinien, elle n'a pas beaucoup tapé sur la table. Donc, on est un peu inquiet de ce côté-là. Bon. Alors, il reste aujourd'hui la défense de la cause palestinienne est portée très largement par le Hezbollah libanais, qui est libanais, par les Houthis yéménites et maintenant par ce qu'on appelle les Kateb Hezbollah, donc le Hezbollah irakien. Donc ce sont des structures qui ne sont pas des structures d'État, qui défendent la cause palestinienne et qui disent « nous nous arrêterons de nous battre contre l'armée israélienne quand vous laisserez les Gazaouis tranquilles ». Ça, la condition est très très claire. Or il se trouve que ce discours-là, qui est politiquement correct, est accompagné d'une capacité militaire totalement inattendue du point de vue de l'armée israélienne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, le Hezbollah tire des roquettes et envoie des drones suicides sur le territoire israélien. Tous les jours. Et il y a le feu à Tel Aviv, il y a le feu à Haïfa, il y a le feu partout. Même chose pour les Kateb Hezbollah irakiens. Même chose pour les Yéménites qui se payent le luxe d'envoyer des missiles hypersoniques sur Tel Aviv. Et qui arrivent parce qu'il y a des vidéos, on les voit, etc. Et donc en fait, ils sont en train de créer cette résistance-là qui est fondée sur le fait que le Gaza doit y avoir un cessez-le-feu, en gros doit être laissé tranquille, continue et marque des points militaires contre Israël. Ce qui a justifié, et ça on n'en parle pas non plus, le voyage assez étonnant, il y a dans le cabinet Netanyahou un spécialiste de la stratégie. Et ce monsieur, c'était donc juste après l'élection de Trump, a pris un avion militaire, est allé à Moscou. Il est allé à Moscou. Alors, regardez la carte, vous verrez que c'est assez étonnant parce qu'il est parti donc d'Israël, bien sûr. Il a contourné la Turquie parce que on ne sait pas trop la Turquie qui veut rentrer au BRICS, qui veut quand même défendre la condition des musulmans, etc. Donc, il est passé en territoire très tranquille sur la Grèce, sur la Bulgarie, sur la Roumanie. Il est arrivé directement à Moscou. Et là, il est allé aux nouvelles. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que vous allez nous aider ou est-ce que nous, notre situation israélienne, c'est-à-dire échec militaire, on n'arrive pas à rentrer au Liban. On n'arrive pas à rentrer au Liban. C'est ça l'échec militaire. Ils ont perdu un millier d'hommes déjà au Liban. Ils ont perdu des dizaines et des dizaines de chars d'assaut. Et donc, il y a des escarmouches à la frontière, ils avancent un petit peu ici, ils reculent, ils prennent un village, ils relâchent, etc. L'armée israélienne est dans l'incapacité, face à la résistance du Hezbollah, de pénétrer en profondeur sur le territoire libanais. Ça ne les empêche pas d'aller bombarder Beyrouth, etc., et de tuer des civils, comme ils savent faire. Mais militairement, c'est un échec. C'est ce qui explique la visite de ce ministre à Moscou en disant « Oh non, on va... qu'est-ce qui se passe ?» Parce qu'ils en sont, alors, il faut bien voir le raisonnement, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui en Israël des gens qui se disent « mais notre État est menacé ». C'est pas du tout « on va perdre une bataille, mais on va s'en sortir ». C'est « notre État est menacé ». Parce que la population, quand elle voit arriver tous les matins des missiles et des obus sur Haïfa et sur Tel Aviv, elle se dit « mais attendez, on croyait qu'on était dans le pays le plus fort de la région, la meilleure armée du monde, et on est bombardé tous les jours, qu'est-ce qui se passe ?» Donc perte de confiance par rapport à Netanyahou, perte de confiance, et puis on voit, alors c'est assez étonnant, de voir des convois d'Israéliens en voiture sur la grande route qui fait du nord au sud et qui sont en train de partir le plus loin possible de la frontière libanaise en disant plus on est loin de là, plus ça, difficile sera l'arrivée des missiles et des obus du Hezbollah sur nous. Et donc on a une véritable scène d'exode sur le territoire israélien aujourd'hui pour essayer de se situer dans les zones hors combat. Il n'y en a plus beaucoup. Mais il y en a encore un peu au sud, parce que le combat de Gaza ne sort pas de Gaza, en fait. Donc, si on se rapproche de Gaza, on est plutôt dans des endroits un peu plus tranquilles qu'à la frontière nord.
Mais, excuse-moi, qu'est-ce que cette personne-là, qui est partie, israélienne, qui est partie à Moscou, espère de Moscou? Je ne comprends pas.
Alors, voilà.
La logique.
Alors, c'est une vraie question sur la position de la Russie par rapport à Israël. La position de la Russie par rapport à Israël a toujours été de dire il y aura deux États, il y a un État qui existe, cet État, on le protégera, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. C'est la position de fond qui est à la limite celle de Poutine et tout, parce qu'elle s'appuie en partie sur le fait qu'il y a aujourd'hui en Israël 1 million de Juifs venus de Russie. Ce qui s'est passé après la chute de l'URSS. Donc il y a une espèce de minorité russo-sioniste qui est là, et on ne les abandonne pas. C'est un peu ça l'idée. Mais on est arrivé maintenant à un point où cette position de la Russie devient difficile à tenir. Parce que ça veut dire couvrir le génocide. Et donc, c'est ça qu'à mon avis le ministre allait chercher en disant, est-ce que vous en êtes toujours au même point de vue ou est-ce que maintenant vous allez dire il faut trouver une issue et tout, et laquelle est-elle? C'est-à-dire il allait aux nouvelles pour savoir si la position russe n'allait pas s'infléchir pour dire il faut arrêter le cessez-le-feu puis se donner plus de moyens pour le faire. C'était ça qui était important, parce qu'il sait aussi que la Russie militairement est présente, puisqu'elle est en Syrie. Il sait que la Russie a mis en place et continue à mettre en place tout le long de la frontière libanaise, du côté du Golan, des systèmes d'observation. Donc elle sait au jour le jour où sont chacun des chars d'assaut israéliens, ce qu'ils font et où ils vont. Donc elle a des moyens d'observation, elle sait exactement ce qui se passe. Mais à partir du moment où elle dirait politiquement... on n'en veut plus, votre politique, on n'en veut plus, ça voudrait dire qu'il dirait il faut renverser le gouvernement Netanyahou. Ça que ça voudrait dire. Et là, Netanyahou serait très, 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 très... Il faut renverser le gouvernement Netanyahou. Ça doit se discuter. Ça doit se discuter parce que, j'explique, vous connaissez, enfin vous avez tous entendu parler du fameux quotidien libéral israélien qui s'appelle Haaretz. Considère comme un peu la référence des libéraux, de ceux qui ont un peu de recul, qui ne sont pas des va-t-en-guerre fous. Le rédacteur en chef de Haaretz a fait une déclaration très très brève, et dans l'affaire de même pas une minute, il a dit « il y a déjà eu une Nakba, on est en train d'en refaire une deuxième, on ne nous le pardonnera pas ». Alors, je répète, il y a déjà eu une Nakba, c'est la première fois qu'un journal israélien dit « on a mis à la porte 800 000 Palestiniens et on a tué ceux qui étaient récalcitrants et on a généré toute une diaspora palestinienne qui n'était pas prête et qui, pour une part, vit encore dans des camps depuis 1948, les personnes de l'époque ou leurs enfants, voire même leurs petits-enfants. Bon. » Et il dit « ça, on ne peut pas se le repermettre une deuxième fois, on ne nous le pardonnera pas. » Donc, il dit en clair à Netanyahou, tu vas trop loin. Tu vas trop loin, il faut rebattre les cartes si on veut sauver l'État d'Israël. Et c'est ça que le ministre est allé voir à Moscou, dire, est-ce que là-dessus, on aura l'appui de la Russie, c'est-à-dire sauver Israël à condition que sa politique change. Parce qu'autrement, si on laisse les choses continuer, on ne sauve rien du tout. On ne sauve rien du tout et on arrivera à cette position de gens qui disent de toute façon Israël n'avait rien à faire ici, qui est à la limite la position d'une partie des Iraniens qui dit de toute façon depuis qu'ils sont là c'est le désordre permanent, maintenant ça suffit qu'ils s'en aillent. Ce qui ne veut pas dire, et j'insiste là-dessus, ce qui ne veut pas dire tuer tous les Israéliens, ce qui veut dire ceux qui veulent rester là parce qu'ils sont bien et qui acceptent de travailler, de vivre normalement en stricte égalité sur place, on les accepte, mais dire qu'il y a une discrimination et qu'il y a deux États à l'intérieur d'un seul, c'est pas possible. Voilà, donc ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses. Alors, ce qui est toujours navrant, ce qui fait mal, il faut le dire, ça fait mal, c'est que pendant le temps où ces choses-là s'élaborent, se discutent, un vol par avion, une discussion, des suites diplomatiques, etc., c'est par centaines que les gens meurent à Gaza tous les jours. C'est ça qui est à la limite du supportable, puisqu'on dit, mais quand est-ce que vous serez un peu raisonnable, hein? Quand est-ce que vous... Et chacun reste sur sa position, Netanyahou intransigeant, mettant à la porte son ministre de la Défense, disant, je suis le meilleur, etc., etc. Mais en fait, je pense qu'ils savent maintenant, finalement, ce n'est pas dans le style de Netanyahou de reconnaître qu'il est dans l'erreur, mais il sait que ses jours, probablement, sont comptés. Le grave, et je vais finir là-dessus puisqu'on touche avant, c'est que demain, il est prévu à Paris, dans un endroit qui n'a pas encore été rendu officiel, un meeting d'encouragement à M. Smotrich, le ministre des Finances donc de M. Netanyahou, qui est un des pires faucons possibles et imaginables, et qui vient dire, l'affiche du meeting, c'est « Israël forever », Israël pour toujours, on ne disparaîtra jamais. Et qui est-ce qui favorise ça? C'est effectivement le gouvernement de la République française. Donc, va-t-en-guerre côté Ukraine, va-t-en-guerre côté Palestine, Macron est un personnage dangereux pour la démocratie et pour la paix. C'est ça la conclusion qu'il faut bien tirer. Alors, il y a des réactions, puisqu'il y a des ONG, j'allais dire, une série d'avocats qui s'occupent de cas de famille palestinienne et tout, qui ont écrit au procureur de la République pour lui demander d'interdire cette manifestation de demain, cette conférence qui sera publique, mais sûrement très très bien gardée. Je ne sais pas quel sera le résultat. Ce qu'il faut savoir, et ce qui me paraît extraordinairement choquant, je salue la démarche, mais ces ONG et donc ces avocats français de famille palestinienne écrivent au procureur de la République à Paris et lui écrivent un mémoire en anglais. Vous avez bien entendu. On écrit à un procureur de la République sur une question touchant la Palestine et Israël et on lui écrit en anglais sur le territoire de la République française. Voilà. Ça, c'est une évolution un peu préoccupante. Hein. Un détail parmi d'autres. Un détail. Voilà donc la France qui est là dans cette opération, qui ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais qui s'enfonce dans l'extrémisme. Extrémisme sur la question ukrainienne, extrémisme sur la question palestinienne, alors que le monde entier commence à voir, enfin le monde, pas tout, à part l'Europe, mais même pas toute l'Europe, puisqu'il y a des gens qui disent... Je pense au Premier ministre slovaque qui a déclaré que M. Zelensky avait assez fait de dégâts et qu'il serait bon qu'il s'en aille. Et donc il y a même au sein de l'Union européenne des tensions pour ne pas continuer le soutien à l'Ukraine. Mais le courant majoritaire mené par Mme von der Leyen et ses nouveaux ministres, sa ministre des Affaires étrangères, l'ancienne Premier ministre estonienne, et son ministre de la Défense, qui est un ancien Premier ministre lituanien, eux sont pour la guerre jusqu'au bout contre la Russie. ce qui coûtera beaucoup plus cher d'ailleurs à l'Europe qu'à la Russie, qui s'en sort fort bien économiquement et même politiquement, puisque la Russie, on peut le dire, est l'élément stabilisateur du système, qui sait à qui parler et comment parler, en essayant de respecter les uns et les autres. Voilà, un petit tour d'horizon rapide, je pense. J'ai forcément oublié des choses, mais... Ah si, dernière chose. C'était vrai déjà dans la déclaration du sommet des BRICS, et ça a été redit par Trump. Dans la déclaration du sommet des BRICS, peut-être, j'avais dit que les BRICS avaient reconnu qu'il fallait respecter l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire la liberté des échanges, avec des systèmes de discussion quand il y a des contradictions. Et en fait, ce que Trump vient d'annoncer, écoutez bien, c'est d'augmenter les taxes sur l'importation de tout produit non fabriqué aux États-Unis de 20% et d'augmenter les taxes sur les produits fabriqués en Chine de 60%. Donc je m'enferme dans l'Organisation mondiale du commerce. Je m'assois dessus, je fais ce que je veux, quel que soit le coût pour mes citoyens des États-Unis. Pour les autres, tant pis, ça ne me regarde pas. Voilà quelques éléments d'appréciation sur la situation extrêmement évolutive et chaude qui ne va pas s'améliorer en une semaine, puisque, en fait, je rappelle quand même qu'officiellement, il faut que les grands électeurs confirment ce qui est sorti des urnes, et il faut ensuite que l'équipe Trump, qui est déjà bien structurée, se confirme, et la passation de pouvoir n'a lieu, vous le savez, que le 20 janvier. Donc, il peut y avoir encore beaucoup de soubresauts dans cette situation instable mondialement. Merci de votre attention, merci Roselyne, et à la semaine prochaine, non à demain soir pour une émission spéciale sur la Kanaky.